France Inter. Karine Bécard, Ali Badou. Le 7-9.
Jeudi 18 février, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un plan pour lutter contre la cybercriminalité. Les attaques ont été multipliées par 4 en un an et parmi les victimes, les hôpitaux particulièrement fragiles en cette période de crise sanitaire. Le chef de l'État présente aujourd'hui la nouvelle stratégie française dotée d'1 milliard d'euros de budget. Les autres titres, Agnès.
Y a-t-il eu de la vie sur Mars? Le robot Persévérance va tenter de percer le mystère de la planète rouge, atterrissage délicat prévu ce soir. Quand l'armée britannique réhabilite enfin ses soldats virés pour cause d'homosexualité, des consultations chez le psy peut-être bientôt remboursées, c'est en tout cas la recommandation de la Cour des comptes. Et puis un bol d'oxygène, c'est simple comme une virée en VTT.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50 avec vous Karine Bécard.
Il est un des piliers du gouvernement, assez discret depuis le début de la crise du coronavirus, pourtant en pleine pandémie, c'est lui qui va devoir relancer notre politique d'aide internationale au développement, autrement dit, quel pays allons-nous aider? Comment? Et surtout pourquoi? Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, répondra à toutes ces questions tout à l'heure à 7h50.
À 8h20, le grand entretien de la matinale avec un invité exceptionnel. Il est épidémiologiste, professeur de médecine à Genève. On le surnomme Monsieur Main Propre puisqu'il est l'un des inventeurs du gel hydroalcoolique. Didier Pitté sera au micro d'Inter tout à l'heure. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter.
C'est un fléau qui touche tous les acteurs et tous les pays. Les géants du numérique aux États-Unis, la page officielle de l'armée en Birmanie, l'Agence européenne du médicament et la semaine dernière en France, deux hôpitaux à Dax et Villefranche-sur-Saône. Le nombre d'attaques par rançongiciel, une technique qui consiste à demander de l'argent, beaucoup d'argent, pour établir l'accès aux données informatiques, a été multiplié par 4 entre 2019 et 2020. Alors pour tenter de stopper cette spirale infernale, le chef de l'État doit présenter aujourd'hui un plan de lutte pour la cybersécurité. Ariane Grissel.
L'Élysée dit vouloir consacrer 1 milliard d'euros de fonds publics et privés à la création d'emplois pour lutter contre la cybercriminalité, à l'accompagnement des collectivités ou pour ouvrir cet automne un campus dédié dans le quartier d'affaires de la Défense avec start-up et salles de formation. L'objectif, explique l'entourage d'Emmanuel Macron, est de ne pas uniquement contrer les attaques, mais aussi de faire de la France un pays compétitif en matière de moyens de protection. Secteur prometteur puisque, détaille un conseiller, nous sommes passés à un mode d'attaque industrialisé. Une campagne de sensibilisation doit aussi être lancée. Les hôpitaux n'ont pas été visés en tant qu'établissement de santé, mais d'abord parce que leurs ordinateurs avaient des failles, précise un spécialiste, une attaque à but purement lucratif. D'où cette règle d'or, et l'Élysée assure qu'elle a été suivie à Dax et Villefranche-sur-Saône, ne jamais payer de rançon. Un enquêteur insiste, cela ne garantit en rien la récupération des données et n'empêchera pas l'auteur de l'attaque de revenir.
Alors comment concrètement les entreprises et les hôpitaux peuvent-ils lutter contre ces attaques? Gabriel Villers est consultant informatique et spécialisé en sécurité. Avec le développement du télétravail, les cyberattaques risquent d'augmenter.
Il va peut-être falloir revoir l'investissement dans la formation des personnels, dans les techniques et outils de sécurité et d'analyse, et aussi peut-être par la prise de conscience des entreprises qui sont derrière le milieu médical. Demain, tout appareil, tout objet qui est connecté doit être sécurisé dans son développement, dès sa conception, pour qu'à chaque étape, on anticipe les risques avant de les subir.
Un propos recueilli par Charlotte Coutard de France Bleu Normandie. Du cauchemar technologique au miracle technologique, avec une expérience incroyable sur Mars, le robot Persévérance, envoyé par la NASA, va donc se poser dans ce qui était un lac il y a 4 milliards d'années. Et la présence d'eau amène à se poser une question. La vie a-t-elle un jour existé sur Mars? Pour tenter d'y répondre, le robot va prélever des échantillons qui seront analysés plus tard sur Terre. Les ingénieurs vont également tenter deux expériences, fabriquer de l'eau et faire voler un drone. Sophie Bécherel.
Faire décoller un hélicoptère de Mars, c'est un pari fou, celui d'une bande de scientifiques du Jet Propulsion Laboratory aux États-Unis, emmenée par Mimi Hong, ingénieur birman.
Un hélicoptère martien baptisé Ingéniosité sur un rover baptisé Persévérance, comment faire mieux? On va tenter le tout premier vol d'un hélicoptère sur une autre planète. Ça a demandé de l'ingéniosité, beaucoup de travail et de la persévérance pour arriver où on en est aujourd'hui.
Les ambitions de l'équipe sont modestes, prouver tout simplement que ça peut marcher. Le drone pèse 1 kg.
Apollo 8. Son rotor tourne à 2500 tours par minute. Il est alimenté par un panneau solaire. Les vols seront de courte durée, explique François Forger, chercheur au CNRS.
Il va pouvoir voler quelques minutes, hein, une ou deux minutes, prendre des images à l'avance. Alors on ne sait pas combien de temps cette mission sera capable de vivre, si elle pourra suivre le rover toutes les années prévues pour son existence. Mais ce sera extrêmement spectaculaire pour la première fois sur une autre planète d'avoir un engin volant qui pourra, comme sur Terre, prendre des photos, se promener.
Si ces vols réussissent, autrement dit si le concept est validé, à l'avenir d'autres drones pourraient être embarqués à bord de missions spatiales et servir à transporter des instruments scientifiques d'un point à l'autre d'une planète ou d'un astéroïde.
Persévérance doit atterrir sur Mars ce soir vers 21h30. À noter que la France participe activement à cette mission de la NASA. Pas de changement de doctrine dans la stratégie de lutte contre le Covid en France. Olivier Véran fera bien un point ce soir à 18h, mais la situation reste stable. 25 000 nouvelles contaminations en 24 heures et 310 décès à l'hôpital. Stable aussi le taux de positivité des tests à 5,9%.
France Inter, 7h06, la suite du journal, Agnès Soubiran, quand Jean-Luc Mélenchon se compare.
Vous connaissez l'adage, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Le chef de la France Insoumise a lancé hier un comparateur de programme destiné à comparer donc les propositions de tous les autres partis avec celles de la France Insoumise. Laurence Perron.
Nous discuterons les programmes de tout le monde.
Tout sera passé à la moulinette. Celle qui en est chargée, c'est Clémence Guettet, responsable du programme.
On va travailler avec méthode, en prenant les sujets les uns après les autres, en lançant une série d'interpellations.
Les interpellations, les relations avec les autres partis, ça c'est le travail du député Éric Coquerel. Mais la tâche semble ardue, avec le PS d'abord. Son patron, Olivier Faure, qui s'est abstenu sur la loi séparatisme, accuse désormais dans les médias la France Insoumise, qui a voté contre, d'ambiguïté.
Il nous a jamais parlé de ça. Pas un coup de téléphone, pas une lettre, pas un télégramme, pas un tweet.
Le comparateur de programme, c'est aussi obliger ses éventuels adversaires à gauche à sortir plus vite du bois.
Pas rester dans le confort moelleusement levé du désir entretenu de candidature. Les gens disent qu'ils ne savent pas, mais que si, peut-être bien dans le cadre du projet. Tout ça, le projet, mais quoi concrètement ?
Voilà pour Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg. Là, c'est sur le cas du candidat Yannick Jadot.
Il a dit que c'était pas le temps des candidatures, mais que cependant, il avait ouvert un site de candidats. Est-ce qu'il l'est ou est-ce qu'il ne l'est pas ?
Quant à Benoît Hamon, qui ne fait plus mystère qu'il soutiendra celui ou celle qui défendra son revenu universel.
Vous voulez parler de ça ? On en parle sérieusement, le crayon à la main.
En clair, Jean-Luc Mélenchon, faute de pouvoir créer l'unité à gauche, entend bien lui imposer son tempo de campagne.
Georges Tron a passé la nuit derrière les barreaux. Acquitté en première instance, l'ex-secrétaire d'État a été condamné hier soir en appel à 3 ans de prison ferme pour viol et agression sexuelle en réunion sur une ancienne collaboratrice de sa mairie de Draveil dans l'Essonne. Le mea culpa de l'armée britannique qui, durant des dizaines d'années, a brimé et licencié des soldats en raison de leur orientation sexuelle. Le ministère de la Défense vient d'annoncer leur réhabilitation. Richard Place, notre correspondant à Londres, a rencontré l'un de ces anciens soldats mis au ban de l'armée.
Opérateur radio dans la Royal Navy pendant 13 ans, il a participé à la guerre des Malouines, effectué des missions en Irlande du Nord et au Moyen-Orient. Joe Ozalice est un bon soldat. Mais quand sa hiérarchie apprend qu'il lui arrive de partager son lit avec un autre homme, sa vie bascule. En 1993, il passe devant une cour martiale, il est licencié parce qu'il est bisexuel.
Pour mon dernier jour à l'armée, je me suis retrouvé devant le commandant de la base. Il m'a dit que les gens dégoûtants comme moi n'avaient pas leur place dans ce monde. J'ai perdu ma maison, ma voiture, ma petite amie. Je me suis lourdement endetté. Ça m'a pris 10 ans pour me remettre financièrement et j'ai tenté de me suicider en sautant d'un pont.
Aujourd'hui, il a récupéré sa médaille, mais si le ministère de la Défense agit, c'est parce que Joe a porté plainte. Son avocate, Emma Norton, est aussi la fondatrice du Centre pour la justice militaire et elle n'a pas l'intention de s'arrêter là.
C'est bien beau de parler des médailles, mais ce n'est que le premier pas, il y a encore beaucoup à faire. À commencer par des compensations financières pour tous ces vétérans LGBT qui sont beaucoup plus pauvres qu'ils ne devraient l'être.
Boris Johnson lui-même parle aujourd'hui d'une grande injustice. Londres, Richard Place, France Inter.
Le Royaume-Uni rend leur médaille aux soldats homosexuels, c'est à lire aussi sur franceinter.fr. Les séances chez le psy peuvent être bientôt remboursées, c'est en tout cas la recommandation de la Cour des comptes. Il faut dire qu'en cette période difficile, les centres médicaux sont débordés, avec des délais d'attente de plusieurs mois. Rembourser les séances chez le psy, l'expérimentation est d'ailleurs menée depuis près de 2 ans dans 4 départements. Et ça marche, Véronique Julia.
L'expérimentation a démarré début 2019 en Haute-Garonne, dans les Landes, les Bouches-du-Rhône et le Morbihan. Le principe, pour des troubles dépressifs et anxieux peu sévères, le médecin traitant peut prescrire 10 à 20 séances chez un psychologue libéral agréé, des séances d'une demi-heure qui sont intégralement prises en charge par l'assurance maladie. L'objectif est double, privilégier l'accompagnement et limiter ainsi le recours un peu trop systématique en France aux psychotropes, mais aussi désengorger les structures de psychiatrie pour les laisser se concentrer sur les cas les plus lourds. En deux ans, l'expérimentation a permis de traiter des milliers de patients. En Haute-Garonne, plus des deux tiers des psychologues libéraux ont joué le jeu. Parmi eux, Patrice Bouchaïb.
On sait très bien que cette expérimentation sera un succès. On a une société qui est sous tension parce qu'il y a des aspects démographiques et sociaux qui font que les solutions qu'on pouvait avoir auparavant ne sont plus accessibles de la même manière. Ça ne marche plus.
S'il souhaite cette généralisation, Patrice Bouchaïb reconnaît que certains de ses confrères n'auront pas envie de rentrer dans le dispositif. Ils devront avoir le choix, précise-t-il. Le nombre, la durée, mais aussi le coût des séances devrait également être discuté et sans doute réévalué. Les séances sont payées 20 à 30 euros pour l'instant. C'est peu comparé aux tarifs habituels des psychologues, d'autant que le système générera sans doute à terme des économies en médicaments, voire en hospitalisation, si ça permet d'empêcher que certains troubles dépressifs ne s'aggravent.
Et pour eux, le bien-être passe par une virée à vélo. En cette période de vacances scolaires, tous les enfants n'ont pas la possibilité de partir. Alors des communes proposent leurs propres activités. À Montreuil, Lise Dussault a pu suivre une sortie VTT.
Déjà sur leur vélo avant même le départ, les sept collégiens trépignent d'impatience.
Mettez-le votre casque.
Direction aujourd'hui le parc des Guilans, un grand espace vert assez loin de leur quartier. Et ce ne sont pas les quelques gouttes de pluie qui vont les arrêter. Cette sortie, c'est un vrai bol d'air.
Moi, perso, je me sens libre en fait. C'est comme si genre, que je me lâche, quoi. Au lieu d'être enfermée à la maison,
rien faire. Avec les petits frères et les petites sœurs.
Bah, on va sur la télé, sur les tablettes, sur les ordis. Du coup, on a presque rien à faire de notre journée.
En file indienne sur la piste cyclable, c'est Théo qui est à l'arrière.
Les gars, c'est qui roule le mieux là ?
L'animateur les encadre toute cette semaine et aussi hors vacances scolaires. De confinement, maintenant un couvre-feu à 18h, il voit bien que les jeunes ne le vivent pas très bien.
Là, ils ont besoin rien qu'une activité VTT pour se défouler. C'est pas forcément les sorties qui sont les plus fréquentées par les jeunes.
D'habitude, les vacances, c'est pour l'occasion de faire d'autres activités, mais là, impossible. Il a fallu revoir tous les programmes. Vous Fousséni, également animateur.
Pendant les vacances, on est plus axé à faire des activités de consommation. Le laser game, parc Astérix, Disneyland, le karting. Mais là, avec ce qui se passe, les restrictions sanitaires, on fait ce qu'on peut et on a décidé d'aller au parc. Mais ça change un peu et ils s'amusent tout autant en fait.
Les encadrants constatent aussi que moins d'enfants viennent dans les antennes jeunesse de la ville à cause du contexte sanitaire.
Un reportage de Lise Dussault. Serena Williams n'ira pas plus loin. L'américaine a été éliminée ce matin en demi-finale de l'Open d'Australie par la japonaise Naomi Osaka. 6-3, 6-4. Et en conférence de presse, la joueuse de 39 ans a eu cette phrase énigmatique. Si un jour je fais mes adieux, je ne le dirai à personne. Serena Williams qui a quitté la conférence de presse en pleurs. Et puis nous vous parlions hier de la vente aux enchères d'une partie de la collection personnelle de Christo. Eh bien, elle a eu un très gros succès. La vente a atteint 8 millions d'euros. L'estimation de départ était à moins de 4 millions.
Merci Agnès Soubiran. Le Zoom dans 3 minutes quand l'épidémie de Covid accélère les envies de reconversion professionnelle.